Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
J'ai pu visiter les 5 continents, j'ai voyagé dans plus de, à ce jour, plus de 50 pays. Et si tu veux, tout ça, ça concourt à une ouverture d'esprit, à accepter l'autre, à échanger. Avec beaucoup de personnes. Donc pour moi, ça, si tu veux, ça n'a pas de prix.
Dans cet épisode, j'accueille Salim Saifi, en poste chez Business France et expert en diplomatie économique depuis plus de 15 ans. Actuellement à Paris, Salim était entre 2018 et 2020 basé à New York, où il manageait l'équipe d'investissement de Business France et a supervisé plus de 100 projets par an. Avant ça, il a aussi passé plusieurs années au Moyen-Orient. Salim nous partage son expérience dans son domaine, les secteurs d'avenir qu'il a identifiés, ses conseils pour travailler à l'étranger et pourquoi ses expériences à l'international lui ont été si utiles dans sa construction.
En fait, un VIE, c'est partir à l'étranger pour une période de 6 à 24 mois en entreprise ou en administration française, quel que soit votre parcours. Voilà. Donc, si vous avez entre 18 et 28 ans, vous pouvez réaliser un VIE ou un VIA et c'est un vrai tremplin professionnel à l'international.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Ok, très bien. Écoute, salam alaikum wa rahmatullah, Salim.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Très bien, alhamdoulilah, et toi?
Très très bien. Donc on se parle, toi, depuis Paris. Actuellement, tu es à Paris.
Effectivement, à Paris, ouais.
On se disait juste avant l'enregistrement que c'était un vendredi. Vendredi béni, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Écoute Salim, je vais commencer par te demander de te présenter, une petite introduction rapide.
Ouais, avec plaisir. Je vais peut-être commencer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Donc je m'appelle Salim Saifi, j'ai 37 ans et je suis diplômé d'un master en stratégie d'internationalisation que j'ai réalisé il y a maintenant plus de 15 ans en France et au Mexique. Ces 15 dernières années, j'ai exercé dans le domaine de la diplomatie économique, en fait, dans plusieurs régions du monde. J'ai commencé par l'Amérique latine, le Mexique, que j'ai cité, au Moyen-Orient. J'ai travaillé au Koweït, à Abu Dhabi, et puis à Dubaï, et puis en Amérique du Nord, San Francisco et New York. Et actuellement, je suis basé à Paris, comme tu l'as dit. Alors, dans mon parcours professionnel international, j'ai eu trois grandes étapes, on va dire. D'abord, entre 2009 et 2016, en tant que directeur régional d'une agence publique française qui s'appelle Invest in France, qui n'existe plus, qui a été fusionnée avec UBI France en 2015. Puis, de 2017 à 2018, en tant que directeur des investissements financiers, donc à Business France, le fruit de cette fusion, à San Francisco. Et enfin, 2018 jusqu'à 2020 plutôt, j'ai été directeur du pôle investissement de Business France à New York. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'exerce dans le domaine de la coopération internationale entre agences homologues. Donc, je forme des agences de promotion des investissements de pays étrangers. Je travaille notamment avec des pays africains comme les Comores, le Mali, mais également des pays des Caraïbes, Cuba, et puis aussi des pays du Proche-Orient. J'ai un beau projet avec nos frères libanais. Voilà.
Ok, très bien. Écoute, je vais rentrer un peu en détail dans certains termes que tu as évoqués, qui sont un peu inconnus pour moi. Donc, tu as évoqué la diplomatie économique. Tu as travaillé dedans. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est?
De la diplomatie économique, si tu veux, c'est de la diplomatie. Donc, tu connais le terme de diplomatie, oui. Donc, dans les domaines des relations internationales, mais appliqué à l'économie. Donc, c'est-à-dire qu'on est en charge de la promotion et du développement des courants d'affaires entre deux pays, que ce soit des courants d'affaires d'investissement, de commerce, de coopération économique. Et donc, ma mission concrètement au sein de Business France, c'est de pouvoir détecter des investisseurs étrangers qui sont susceptibles d'investir en France, de les informer, de les orienter et puis de les accompagner dès lors qu'ils ont un projet qui se concrétise. Et donc, je les accompagne au niveau national avec l'agence Business France, mais aussi au niveau régional en France, avec tout un réseau d'agences de développement économique qui sont réparties sur le territoire français.
D'accord. Donc ça peut être plusieurs cas de figure. Ça peut être des gens qui savent qu'ils veulent investir en France, mais qui ont besoin d'accompagnement, ou des gens qui souhaitent investir dans un territoire en Europe ou quelque part d'autre, et tu vas essayer de mettre en avant la France pour qu'ils investissent en France et pas dans un autre pays.
Naturellement, en tant que je travaille pour Business France, donc moi, mon objectif, hein, c'est que les investisseurs privilégient la France. Après, c'est un peu plus complexe que cela. Tout dépend du projet et du porteur de projet, de son projet économique, de son modèle économique, et puis des atouts du territoire français vis-à-vis d'autres territoires européens ou de principaux concurrents qui sont en général les pays de l'OCDE. Donc, on fait valoir, si tu veux, toute une série de paramètres. Qui sont des atouts d'attractivité du territoire français et qui permettent de pouvoir orienter l'investisseur sur le territoire français plutôt que sur un autre territoire. Ça va enfin, les fondamentaux de l'économie française, à la qualité d'infrastructure du territoire, à la disponibilité de talents. Et notamment d'ingénieurs, hein, qui sont quand même de bons ingénieurs reconnus au niveau mondial, à un potentiel de marché, hein, un potentiel de marché, etc. Donc on a toute une série d'argumentaires que l'on partage avec ces investisseurs et qu'on vérifie sur le terrain. C'est-à-dire que ces investisseurs sont très pointilleux et ils ont vraiment besoin de vérifier l'ensemble des informations qu'on leur transmet.
Est-ce que vous avez la possibilité de leur faciliter, disons qu'il y a un blocage, je ne sais pas, ça peut être par rapport aux taxes, ça peut être les tarifs.
Ouais, effectivement, on a aussi un rôle de comment dirais-je, de trait d'union, hein, entre l'investisseur et les administrations françaises, que ce soit l'administration fiscale ou l'administration douanière, ou peut-être si c'est un projet dans le domaine de l'environnement avec le ministère de l'Environnement, etc., pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs questions, et ou éventuellement régler des problématiques qui se poseraient lors de leur parcours d'investisseur. Effectivement, c'est aussi l'un des rôles de Business France.
Et du coup, juste, ça doit être évident pour toi, mais c'est quoi l'intérêt ou les intérêts pour la France d'attirer ces investissements et ces entreprises en France?
En fait, là, tu évoques une question qui est hyper importante, qui est celle d'une question d'interdépendance entre des économies vertes sur le monde. Comme tu le sais, la France, c'est une économie ouverte sur le monde. Je vais te donner trois chiffres, simplement, qui vont te permettre un petit peu de voir l'importance, hein, des investissements étrangers pour l'économie française. Le premier, c'est 2 millions. 2 millions, c'est le nombre de personnes en France qui sont employées par des entreprises étrangères. Donc, quand je parle d'entreprises étrangères, je parle de grands noms, hein, que l'on connaît tous, comme Coca-Cola, IKEA, FedEx ou Amazon, mais également de noms plus récents, des entreprises, des startups plus jeunes, comme N26 ou Deliveroo. Donc, toutes ces entreprises-là emploient en France 2 millions. C'est un chiffre qui est quand même considérable. 71%, c'est le deuxième chiffre. C'est le nombre d'investissements étrangers qui ont été sur des territoires de moins de 20 000 habitants. Donc c'est la portion d'investissements étrangers, notamment industriels, qui ont été sur des territoires de moins de 20 000 habitants. Ça montre aussi qu'en termes d'aménagement du territoire, les investisseurs étrangers contribuent fortement au développement de petites villes, hein, puisque 20 000 habitants, c'est considéré quand même comme des petites communes.
Quand tu dis
40%,
71%, juste pour ce chiffre-là, je
ouais.
l'avais peut-être pas très bien entendu, 71% des investissements sont faits par des étrangers dans ces
Non,
villes-là.
non, 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 71% des investissements industriels étrangers sont réalisés dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc, simplement pour te montrer que les investisseurs étrangers contribuent également fortement à, si tu veux, l'aménagement du territoire français. Et donc,
Et plus que
c'est
dans les grandes villes.
également, Au niveau industriel, oui, effectivement, puisque les sites industriels sont généralement situés en périphérie de grandes villes. Et donc, ça montre également que pour une ville de moins de 20 000 habitants, lorsqu'elle voit arriver un investisseur étranger avec un projet industriel de 30, 40, 50 emplois, c'est une contribution importante au développement économique local et au développement territorial. Donc, ça, c'est un élément important qu'on n'a pas souvent en tête. Et puis 40%, c'est le troisième chiffre, hein, qui peut être intéressant, qui est particulièrement parleur, c'est la part des investisseurs étrangers dans le CAC 40, donc dans la capitalisation boursière française. Donc à peu près 40%, un petit peu moins de la moitié des capitaux français sont détenus par des non-résidents, par des étrangers, par des entreprises ou des individus étrangers. Donc ça montre à quel point également ces capitaux étrangers sont importants pour la France. Ça montre que le poids, enfin, l'importance des IDE pour l'économie française, qui, je rappelle, est depuis 2019 la première destination en Europe pour les investisseurs étrangers. Bon, voilà, donc
C'est dû à
ces
quoi ça?
investissements, à l'attractivité du pays, si tu veux, à l'ensemble des réformes qui ont été mises en place ces dernières années. Et puis à des atouts territoriaux. Quand je te parlais d'investissement industriel, il y a une logique d'atout territorial, de disponibilité de ressources humaines, de talents, de coûts de l'énergie. Hein. Il faut savoir que la France, grâce à l'énergie nucléaire, a un coût de l'énergie en Europe qui est parmi les plus compétitifs. Et lorsqu'il s'agit d'investissements industriels, ce sont des éléments qui sont importants. Si on parle d'investissement dans le domaine de la logistique, on va dire, je veux dire, la densité du réseau d'infrastructures françaises est quand même aussi reconnue au niveau européen. Et c'est vrai que lorsqu'on est logisticien ou lorsqu'on est dans une activité de service, ce sont des éléments qui que l'on prend en compte. Et donc tous ces investissements-là, ils apportent des capitaux, créent de l'emploi dans les régions. Ils apportent aussi une valeur ajoutée, un savoir-faire technologique. En général, ces entreprises-là, notamment les entreprises qui viennent de grands pays de l'OCDE, le Japon, les États-Unis notamment, sont des investissements à fort contenu technologique. Et donc ça, ce sont aussi des choses très apprécié pour l'économie du pays. Donc voilà, d'une manière générale, pourquoi les investissements étrangers sont importants pour l'économie française.
D'accord. Donc tu as dit 40, un gros chiffre que j'ai retenu, c'est 40% des capitaux dans les entreprises du CAC 40 sont investis par des étrangers. C'est assez énorme. Même si je pense, enfin par rapport aux autres gros pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, je ne sais pas si c'est plus ou moins par rapport à eux.
La part est également importante, mais la France fait partie des pays qui ont quand même une ouverture qui est quand même assez forte à ce niveau-là. Elle fait partie des principaux pays qui ont, on va dire, des investisseurs étrangers dans le capitaux de leur bourse. Donc c'est un élément important.
Et tu as évoqué l'année 2019. 2019, ça coïncide aussi avec la période de Brexit, peut-être les lois du président Macron.
Oui, alors moi je t'ai donné les chiffres de 2019 parce qu'en fait les chiffres de 2020 sont pas encore disponibles. Tu sais, il y a un décalage hein, dans le recensement des investisseurs étrangers. Tout ce que je sais, c'est que en 2019, par rapport à en 2020, excuse-moi, par rapport à 2019, il y a eu quand même une baisse hein, des investissements étrangers de l'ordre de 17% hein, en France. Voilà, mais il faut rappeler que en 2019, les investissements étrangers, ils avaient atteint un niveau record, hein. C'est-à-dire qu'on parlait de plus de 1 400 projets d'investissement étrangers. C'était environ à peu près 40 000 emplois qui ont été créés ou sauvegardés, parce qu'il y a des emplois qui sont créés suite à l'implantation de nouvelles activités ou des entreprises qui sont reprises, qui sont soit en difficulté ou pas, mais qui sont reprises par des investisseurs étrangers. Peut-être pour faire simple, hein, pour te parler un peu des types d'investissements réalisés, parce que c'est aussi très intéressant d'en parler, la moitié des projets, des 1 400 projets, sont des créations d'entreprises. L'autre moitié, environ, sont des extensions de sites ou des reprises de sites. Et c'est là où la notion d'extension de site, elle est très importante. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'investissement étranger, on pense souvent à un investisseur qui vient avec un nouveau projet sur un territoire. Il faut savoir que, y a plus de 22 000 entreprises étrangères en France et que ces entreprises-là ont des projets d'extension, des projets de rachat de sites, l'ajout d'une chaîne de production, etc. Et donc ça, c'est plus de la moitié des projets. C'est-à-dire qu'une entreprise bien implantée sur un territoire, qui est satisfaite de son environnement, qui a des courants d'affaires, c'est une entreprise qui est amenée à se développer, à s'étendre et à innover hein, sur ce territoire. Donc c'est très important dans la notion d'attractivité hein, dans laquelle je travaille tous les jours, de penser à ce qu'on appelle l'aftercare, c'est-à-dire le service après-vente de l'investisseur. Il ne suffit pas d'amener un investisseur sur un territoire, il faut pouvoir ensuite assurer un service aftercare qui lui permet de développer son activité pour qu'elle soit pérenne sur le territoire. C'est une
Oui.
majorité de projets industriels. Hein, donc, ça peut surprendre, mais la France est la première destination en Europe pour les projets industriels. Des centres de décision, donc je prends le cas de start-up qui s'implantent sur le territoire français et qui implantent un centre de décision, donc ou avec des activités de management notamment, des commerces, des services logistiques, mais aussi, et c'est très important, des centres de recherche et de développement. La France, et là, c'est un élément de réponse à ta question. Pourquoi les investissements ont bondi? C'est que la France a mis en place une politique d'encouragement de l'innovation via, par exemple, le crédit d'impôt recherche, hein, qui permet à
Ouais.
toute entreprise, qu'elle soit française ou étrangère, de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt sur ses dépenses en matière de R&D. Alors, quand je parle de dépenses en matière de R&D, ça va du recrutement et des charges salariales d'un PhD hein, qui travaille sur un sujet en particulier, au coût de location d'un laboratoire, d'achat de matériaux qui sont nécessaires pour conduire cette recherche sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que pour 100 euros investis, l'État français rembourse 30 euros à l'investisseur. Voilà. Donc ça,
OK.
c'est des choses qui sont quand même assez appréciables et qui encouragent l'investissement dans la R&D. Et puis en fait, enfin, au niveau géographique, on peut aussi se poser la question de savoir qui investit en France. Voilà. Bon, bah, ce sont principalement des entreprises européennes, ce sont nos voisins, hein, donc les entreprises allemandes, les entreprises italiennes, les entreprises espagnoles qui, naturellement, par extension territoriale, ont des ambitions de développement sur la France, et donc qui implantent des sites en France, soit de production, soit de distribution, voilà, soit des commerces, de services. Et puis 22% des États-Unis, hein, les États-Unis sont les principaux investisseurs étrangers en France, voilà, donc 22% des investissements étrangers en France sont réalisés par des entreprises américaine. Et puis le reste, c'est quelques entreprises asiatiques, japonaises, coréennes, chinoises aussi, et puis des entreprises du Moyen-Orient et d'Amérique latine qui ont, en termes de projets créateurs d'emplois, une part moins importante, mais qui, en termes de flux financiers, ont des flux qui peuvent être considérables. Je parle notamment pour les fonds d'investissement du Moyen-Orient.
D'accord, super. Tu as déjà évoqué Business France, mais est-ce que tu pourrais définir un peu les secteurs d'activité de Business France?
Bah déjà, c'est vrai que j'ai pas forcément présenté Business France, mais c'est l'agence nationale en fait au service on va dire, de l'internationalisation de l'économie française. Alors elle est chargée du développement international des entreprises et notamment des exportations françaises et de la prospection et de l'accueil des investissements étrangers en France. Hein, c'est dans ce métier en particulier que j'exerce. Elle gère aussi, je pense que peut-être les auditeurs ont connaissance de ce programme, le VIE, le volontariat international en entreprise ou en administration. Donc c'est Business France qui le gère. Et quelques chiffres sur l'agence. Alors c'est 1 500 collaborateurs qui sont situés en France, donc naturellement au siège à Paris, mais également en région, au plus près des entreprises, et dans 70 pays dans le monde, à travers notamment le réseau diplomatique français, avec une présence et des équipes en local. Alors peut-être, Je sais que beaucoup de personnes font souvent la confusion, parce qu'il y a souvent, on considère qu'il y a un millefeuille administratif français ou d'agence publique, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais ne pas faire de confusion entre Business France et par exemple la French Tech. La French Tech aussi, qui est connue, hein, qui a été initiée par Business France, notamment il y a plusieurs années maintenant de cela. Mais en fait, la French Tech, hein, c'est un écosystème de start-up, c'est un réseau en fait d'entrepreneurs, d'investisseurs, de décideurs français du monde de la tech. Et sa mission en tant que réseau, c'est de soutenir les start-up qui veulent se lancer en France. Mais aussi des startups qui veulent partir à la conquête de marchés internationaux grâce à un réseau de mentors qui sont établis dans des grandes capitales de ce monde. Il y en a à Singapour, à Abidjan, San Francisco, enfin, plusieurs pays ont établi ce qu'on appelle des communautés French Tech qui permettent d'orienter, de conseiller, de faciliter la vie de l'entrepreneur français dès lors qu'il souhaite s'établir dans un pays.
Oui. D'ailleurs, c'est grâce à la French Tech. C'est dans le réseau French Tech que j'avais trouvé mon premier stage, je me souviens, au Japon. Ça m'avait pas mal aidé. Très utile.
Effectivement, le rôle de la French Tech, hein, c'est que l'ensemble de ses membres, de ses acteurs, puissent faciliter et aider tout entrepreneur français ou étudiant français qui a des ambitions dans le domaine de la tech, de la technologie, à concrétiser son projet. Voilà, donc c'est vraiment un puissant réseau qui est amené à se développer. Voilà.
Et Business France, par rapport à la chambre de commerce qu'on peut trouver dans certains pays, dans tous les pays quasiment, ça a un rapport.
On est partenaire. On
OK.
est partenaire dans une logique d'accompagnement de l'entreprise de bout en bout. Comme je t'ai dit, Business France n'est pas présent dans tous les pays. Donc,
Ouais.
dans les pays où Business France n'est pas présent et où la Chambre de commerce a une présence, on travaille en collaboration. Hein, c'est ce qu'on appelle la Team France. Donc, dès lors qu'on a identifié une entreprise sur le territoire français qui souhaite exporter un produit, je vais te donner un exemple, dans un pays où on n'est pas présent, le Maroc, on passe le relais à la Chambre de commerce française au Maroc, qui, elle, va accompagner sur le terrain l'entreprise française en l'aidant à dénicher des distributeurs, à faire connaître son produit, etc. Donc, on est vraiment partenaire avec les chambres de commerce.
Parce que les rôles de chambre des commerces, c'est pas tout à fait le même que celui de Business France.
Alors, c'est un rôle qui est complémentaire. Nous, on est vraiment sur, comme je t'ai dit, pour notamment l'export, puisque les chambres de commerce ont vraiment un rôle dans le domaine de l'export, plus que dans le domaine de l'investissement étranger en France. Mais dans le domaine de l'export, les Business France va accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse trouver des débouchés commerciaux sur des territoires. La chambre de commerce, elle va aller au-delà. Elle peut faire ça en lien avec Business France, mais elle va aussi accompagner l'entreprise si elle souhaite s'implanter sur le territoire. Notamment, je te prends l'exemple de la Chambre de commerce française de Dubaï, qui, elle, a des programmes d'accélération pour accompagner des entreprises françaises qui souhaitent effectivement s'implanter et non pas que vendre sur le territoire, puisqu'on peut, comme tu le sais, vendre dans un territoire sans y être implanté. Mais pour les entreprises qui souhaitent s'implanter et avoir une présence locale, être intégrées à un écosystème local français ou étranger, enfin, les chambres de commerce jouent un rôle qui est très important à ce niveau-là.
D'accord. OK. Écoute, Salim, je voudrais savoir un petit peu comment est-ce que tu as fait pour en arriver à ce job, à ce poste. Quelle éducation tu as fait, quel type de diplôme tu as effectué, si tu avais décidé à l'avance que tu voulais rejoindre Business France.
Si tu veux, moi, j'ai, comme je t'ai dit, un master en stratégie d'internationalisation. Et pour être encore plus précis, j'avais une spécialisation dans le développement des entreprises sur les marchés, ce qu'on appelait les grands émergents à
Oui,
l'époque. Donc,
d'où t'es venue l'idée de faire ça?
j'ai toujours été, si tu veux, attiré par l'international. Moi, j'ai été diplômé en 2007, hein, de ce master, et si tu entre 2000, au début des années 2000 jusqu'à la fin de cette décennie environ, après là, on y va jusqu'à la crise de 2008, on ne parlait que de mondialisation. Donc, si tu veux, moi je baignais dans ce phénomène, hein, de mondialisation. et d'échanges internationaux. Et j'ai tout de suite été très intéressé par ce sujet-là. Je suis aussi très intéressé par les sujets d'interculturel, de géopolitique. Et donc, ce qui m'a amené le plus naturellement possible à choisir un parcours, entre guillemets, académique à l'international, avec des échanges à l'international. J'ai passé près d'un an au Mexique, en fait, où j'ai également eu un master dans une université mexicaine. Donc,
D'accord.
j'ai vite voulu travailler à l'international. Et puis, si tu veux, les premiers stages que j'ai effectués m'ont orienté vers ce parcours du développement économique. Et puis, j'ai, par recommandation, par aussi intérêt, postulé à des postes au sein des réseaux d'ambassades, ex-UBI France, Invest in France, et puis maintenant Business France. J'ai également travaillé au Trésor, hein, donc à la Direction générale du Trésor en tant que VIA. C'était à Abu Dhabi, entre 2007 et 2009. Et
C'est
donc
quoi VIA?
ça, alors VIA, c'est volontaire international en administration. Donc, comme tu sais, il y a le VIE en entreprise et puis il y a le VIA en administration. Le VIE, c'est à peu près, pour te donner quelques chiffres, c'est à peu près 8 000 VIE dans le monde aujourd'hui qui sont répartis dans 2 500 entreprises. Les VIA, il y en a un petit peu moins, je crois qu'on est un peu plus, enfin, tous les ans, il y en a à peu près une centaine qui sont répartis dans 3-4 administrations, hein, qui sont des agences publiques généralement, hein, donc Business France, ça peut être également l'AFD, l'Agence française de développement, ça peut être la BPI, ça peut être une autre administration comme la DG Trésor, la Direction générale du Trésor. Et donc, c'est l'équivalent d'un VI, mais en administration et non pas en entreprise. Voilà, donc
D'accord.
j'ai fait ça entre 2007 et 2009. Et si tu veux, j'ai confirmé tout l'intérêt que j'avais pour un parcours à l'international, et donc j'ai continué et j'ai progressé à ce niveau-là.
D'accord. Le secteur, tu t'attendais à ce que tu fais maintenant ou tu t'attendais à quelque chose de différent? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais?
Ben ouais, je suis satisfait, c'est pour ça que je le fais toujours et que je compte bien poursuivre encore quelques années dans le milieu du développement économique et de la diplomatie. Économique, hein. Pour moi, c'est un univers qui est extrêmement riche, qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Lorsque j'étais en poste aux Émirats Arabes Unis, hein, pour te donner une idée, c'était le premier bureau de l'agence, hein, établi à Dubaï. Donc, si tu veux, j'ai établi un portefeuille de plus de 1 200 entreprises, hein, qualifiées dans la région du Golfe, donc des entreprises locales. J'ai prospecté 5 000 comptes, j'ai réalisé 800 entretiens d'affaires avec des CIO de la région. Et mon action, in fine, elle a permis de détecter et d'accompagner à peu près 50 projets d'investissement, hein, sur cette 8-9 années. Mais si tu veux, c'est des belles rencontres que j'ai faites, des rencontres avec des grands fonds souverains, des rencontres avec des family office, avec des grandes familles locales, qui avaient des projets, des ambitions de développement. En Europe. Et donc ça, si tu veux, moi, ça m'a vraiment enrichi quand j'étais également dans la Silicon Valley à San Francisco. Ma mission, elle était parce qu'on constatait une opportunité croissante d'accompagnement des investisseurs financiers, hein, je parle des fonds de capital venture en France. Ben, j'ai coproduit un roadshow, hein, pendant ces 18 mois où j'étais à San Francisco, un roadshow de grands fonds de capital risque de la Silicon Valley, parmi les plus importants. Et ça m'a permis d'approcher des acteurs de premier rang de la Silicon Valley. J'ai établi le programme, j'ai accompagné son déroulement. Et ça aboutit à de beaux investissements, dont un de plus de 70 millions d'euros dans une start-up française. Donc, si tu veux, ce sont des expériences qui sont très, très intéressantes, et je compte bien poursuivre ces prochaines années avec une ou deux expatriations supplémentaires.
En termes de débouchés par rapport à tes études, tu aurais pu faire quoi d'autre? Ce qu'il y avait tes camarades, tes collègues, ils ont fait le même type de, ils ont suivi le même type de métier?
Alors, la plupart, la grande majorité ont effectivement sont orientés sur des grandes entreprises internationales, mais pas forcément à l'étranger, hein, ici en France. Donc, certains sont restés en France en tant qu'acheteurs, par exemple, des acheteurs internationaux pour le compte de grands groupes. Mais il y en a aussi quelques-uns qui ont été dans des organismes, par exemple, des grandes banques de développement. Comme la Banque mondiale ou la BERD, donc la Banque européenne de développement. Donc on a vraiment une multitude de possibilités en ayant opté pour ce diplôme-là.
D'accord. Tu m'as dit que tu as accompagné pas mal de projets d'investissement. Parmi les investissements que tu as accompagnés, est-ce que tu as identifié des secteurs d'avenir?
Bien sûr, effectivement, si tu veux, il y a des secteurs d'avenir, notamment ici sur le territoire français, mais pas que. Hein. Je suis pas mal imprégné de ma dernière expérience sur le continent nord-américain. Mais incontestablement, je pense que, d'une manière générale, hein, le secteur, ce qu'on appelle le digital, c'est pour moi un secteur qui va être amené à se développer encore plus et de manière exponentielle, parce que on a en France, mais pas que, hein, dans beaucoup de territoires aujourd'hui, une nouvelle génération d'entrepreneurs, hein, de jeunes qui veulent, à l'époque, à mon époque, la plupart des jeunes souhaitaient s'orienter vers un grand groupe ou vers une administration, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La grande majorité des jeunes veulent créer leur entreprise. Et donc, il y a un mouvement, une nouvelle génération d'entrepreneurs. Il y a une disponibilité du capital qui est très importante. Aujourd'hui, l'accès au capital, il n'est plus aussi contraignant qu'il y a une vingtaine d'années. Des talents formés. Et puis des aides. Il y a pas mal d'aides, que ce soit des aides sous forme de mentoring, hein, dans des accélérateurs, des incubateurs ou des aides financières. Et donc, ce qui m'amène à penser que le secteur du digital, donc, est un secteur d'avenir. Alors, je vais rentrer peut-être plus dans le détail, hein, je pense, pour être moins général. Mais
Ouais, ça c'est
si on
vaste.
prend par exemple, ouais, c'est vaste, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses, en fait, le digital. Hein, si on rentre dans le détail, je vais te donner quelques exemples très concrets qui, pour moi, sont des exemples où il y a des segments, des opportunités, des niches en France à exploiter, à explorer notamment. Le domaine de la silver economy, hein, comme tu le sais, c'est une notion qui est assez récente, qui désigne l'ensemble des marchés, des activités, tous les enjeux économiques qui sont liés aux personnes âgées, hein, en général de plus de 60 ans. Dans ce secteur en
D'accord.
particulier, l'ensemble des solutions qu'on peut apporter à cette population, on sait qu'on est en plein tout ce que papy boom, hein, donc on a eu le baby boom, maintenant c'est le papy boom, hein, 60 ans après. Mais ces personnes-là ont des besoins, que ce soit des besoins au niveau de la santé, au niveau de leurs activités journalières, au niveau de leur sécurité, au niveau de leurs interactions avec leur famille, avec d'autres, qui sont amenés à se développer. Et je pense que vraiment le rôle du digital dans la silver economy, il est très, très important, et il est amené à se développer de manière très forte en France, notamment compte tenu de la structure de la pyramide des âges. Je te donne un autre exemple au niveau de la food tech. Aujourd'hui, on voit clairement une demande, un besoin pour ce qu'on appelle les circuits courts dans la production des denrées alimentaires. On voit de plus en plus d'entreprises proposer directement des produits frais, des légumes, des fruits, tout type de produits dans un territoire à l'achat directement via des applications, etc. Je pense que ça aussi, c'est une tendance très forte. Ou quand je parle de food tech, je parle également de fermes urbaines. Hein. On voit maintenant sur les toits de Paris se développer des fermes urbaines qui produisent des fraises, enfin des laitues, etc. Je pense que ça va aussi effectivement bien se développer, parce qu'il y a une demande très forte de consommateurs qui sont extrêmement attentif à cet aspect-là. Et là aussi,
Oui.
c'est une niche pour moi qui est à exploiter. Si on prend toujours dans le domaine enfin, du digital appliqué tout ce qui est rénovation des bâtiments, éco-bâtiments, c'est en très forte croissance grâce à toutes les aides publiques qui existent pour la rénovation du bâti. Et je pense aussi, bon, c'est moins digital, mais je pense aussi que là, il y a une vraie opportunité de création d'activités qui sont liées à la rénovation des bâtiments, à l'amélioration de la qualité du bâti avec des techniques innovantes. Voilà, donc c'est quelques
Oui.
exemples de segments, hein. Ce n'est pas des secteurs, c'est des segments d'activité qui sont des segments à forte croissance en France, hein, sur les prochaines années.
Oui. Donc ça, je pense que ça rejoint beaucoup ESG, donc critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Effectivement. Oui, effectivement, parce que ce sont des si tu veux, ce sont des segments qui sont soutenus par des politiques publiques, hein, donc d'investissement, et qui sont aussi en phase avec l'ASJ, ouais, exactement.
J'ai aussi évoqué les VIE. Est-ce que tu as des conseils pour parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent avoir des expériences à l'étranger, et notamment bon, les VIE, c'est un bon levier pour partir à l'étranger. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui souhaitent passer par un
Bah, le
VIE?
premier conseil, non, mais moi je ne peux que les encourager à le faire, puisque je l'ai fait, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, et
Déjà, il faut le
c'est une
faire,
expérience,
si on
voilà,
peut.
il faut le faire, donc faites-le. Non, mais vraiment, faites-le, et je crois qu'il ne faut pas se poser la question de savoir ce que je fais à VIE ou pas, c'est faites-le. La question, c'est de savoir comment le faire. Donc,
Ou bien même
peut-être.
sans VIE, même s'il n'y a pas de VIE, il faut le faire aussi.
Ouais, mais si tu veux, je trouve que le programme du VIE, je vais l'expliquer un peu parce que peut-être que nos auditeurs ne le connaissent pas. En fait, un VIE, c'est partir à l'étranger pour une période de 6 à 24 mois en entreprise ou en administration française, quel que soit votre parcours. Voilà. Donc, si vous avez entre 18 et 28 ans, vous pouvez réaliser un VIE ou un VIA, et c'est un vrai tremplin professionnel à l'international. Pourquoi? Parce que ça vous permet pendant une période assez courte finalement de vérifier votre appétence pour un marché ou pour un territoire ou pour une expérience à l'étranger. Alors, comment réaliser un VIE? Il y a une voie qui est traditionnelle, hein, et je pense qu'il faut aussi l'explorer. C'est de postuler en ligne. Il y a un site dédié pour cela qui s'appelle monveilleuxvia.businessfrance.fr. C'est l'ancien CiviWeb, où là, vous avez toutes les annonces des 2500 entreprises françaises qui recrutent des VI. Et donc, vous postulez en fonction de votre diplôme, de vos expériences, etc. Mais il y a aussi une autre voie qui est en fait votre propre voie et que je vous invite vraiment à développer et à travailler, c'est de vous créer vous-même vos propres opportunités. Dans la mesure où toute entreprise française qui a une activité à l'international peut recruter un VIE ou un VIA, c'est vraiment de vous créer vos propres opportunités. Je vous donne un exemple. Vous êtes étudiant, vous êtes en fin d'année en master, et puis vous avez un stage de fin d'études à faire dans une entreprise. Vous êtes recruté par un établissement bancaire pour un stage de 5 à 6 mois ou une entreprise qui a des filiales à l'étranger. Vous pouvez tout à fait pitcher votre profil et inciter le service de ressources humaines de votre entreprise à vous recruter en tant que VI dans l'une de leurs filiales à l'étranger. N'hésitez pas vraiment à partager cette information avec vos RH parce qu'elles ne sont pas toujours toutes bien au fait du programme VIE et des atouts que propose le programme VIE pour des services de ressources humaines et des entreprises françaises. Je vous donne un autre exemple. Vous avez 27 ans, vous êtes dans une entreprise qui a également des activités à l'étranger ou pas d'ailleurs, hein, mais qui s'intéresse à l'international. Vous entendez parler du projet d'ouverture d'un bureau en Afrique. N'importe quel pays qui vous intéresse, n'hésitez pas à proposer au service RH de vous recruter en tant que VI pour une période de 24 mois pour aller ouvrir le bureau, pour rejoindre une équipe qui est en cours de constitution. Vous savez, une personne qui est déjà formée, qui connaît l'entreprise, qui a un savoir-faire et qui connaît le fonctionnement d'une entreprise, c'est toujours plus simple de la garder et de lui proposer de s'expatrier pendant quelques années, plutôt que de recruter un nouveau profil en local qu'on va devoir former, etc. Donc, vraiment, créez-vous vos propres opportunités, hein. Et j'ai beaucoup d'expérience et beaucoup d'amis qui ont pu partir en VI parce qu'ils s'étaient eux-mêmes créé cette opportunité d'expatriation, de par les relations qu'ils avaient déjà au sein de leur entreprise.
Oui. Tu peux rappeler les atouts rapidement, les gros atouts pour l'entreprise et pour l'employé de faire un VIE financier?
Alors, bon, les atouts financiers, si tu veux, enfin, c'est surtout une sécurité, c'est-à-dire que tu pars entre 6 et 24 mois à l'étranger, avec on va dire une certaine couverture, une couverture médicale, une couverture au niveau financière, puisque tu bénéficies pas d'un salaire, mais d'une indemnité, hein, qui te permet, qui est évaluée et qui est revue tous les trimestres et qui te permet, pour une personne en général, de pouvoir vivre correctement dans un pays, de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir, de pouvoir avoir un petit budget loisir. C'est aussi l'opportunité pour le VI de découvrir un pays, de pratiquer une langue, parce qu'en général, lorsqu'on sort de ces études, on n'est pas toujours très opérationnel au niveau linguistique. Donc, partir 18 mois, par exemple, aux États-Unis, ça nous permet de perfectionner notre anglais. Et puis, ça permet aussi de confirmer ou pas un intérêt pour l'international. C'est ce qu'il y a d'intéressant. C'est-à-dire que si au bout de 18 mois, finalement, on se dit, bon, bah, c'est parfait, c'est ce que je veux, je souhaite rester. Bon, bah, vous pouvez postuler à des offres d'emploi en local ou rester au sein de l'entreprise en tant que recruté local ou qu'expatrié. Et si vous voulez rentrer en France, bah, vous rentrez en France et puis vous avez passé ces quelques mois à l'étranger avec une sécurité. Pour une entreprise, il faut dire qu'en fonction des pays où ils envoient ou ils recrutent le VI, bah, ça leur résout de grosses problématiques au niveau RH, hein. C'est pas toujours facile de trouver les bons profils à l'étranger. L'entreprise, là, si tu veux, il y a des milliers de postulants pour un poste à chaque fois, donc ou quelquefois des centaines ou des milliers, hein, pour un seul poste qui paraît au sein de mon vie.businessfrance.fr. Et donc, ça donne à l'entreprise une vraie possibilité de recruter des profils qui ont un parcours académique et un niveau d'éducation assez intéressant, qui sont jeunes, dynamiques. Et qui, en matière de coûts, est quand même assez, on va dire, assez attractif et assez avantageux pour l'entreprise. Donc voilà, donc y en a encore, y a pas mal d'atouts, hein. Enfin, je vous invite vraiment à aller sur le site Business France et.
On cotise toujours pour le chômage en VIE?
Je crois pas, non. Une fois le
Non.
retour en France, non, c'est pas le chômage, mais c'est peut-être d'autres
D'accord.
aides qui existent. Qui existe voilà, dans le dispositif d'aide publique française. Mais en général, un VIE qui a 25 ans, lorsqu'il part, il part pour rester, hein.
Ouais.
Et puis, voilà, s'il vient, il revient, et puis il a quand même un certain coussin et certains filets qui lui permettent de rebondir. Voilà.
Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'avoir toutes ces expériences dans tous ces pays, Moyen-Orient, États-Unis, humainement, en termes de développement de carrière
Ben, une ouverture d'esprit en fait, puisque lorsqu'on part à l'étranger comme ça et qu'on a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de monde, c'est aussi partager beaucoup de choses, que ce soit au niveau culturel, au niveau linguistique, au niveau des loisirs. Ça m'a aussi permis, si tu veux, de pouvoir voyager. Moi, j'ai une passion, un hobby qui est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'interculturel, mais ça passe aussi par le voyage et le contact avec différentes cultures, mais aussi avec la nature. J'ai eu beaucoup d'occasions de voyager. Hein. Grâce à mes expatriations, à chaque fois dans des régions du monde, j'ai pu visiter les 5 continents. J'ai voyagé dans plus de, à ce jour, plus de 50 pays. Et si tu veux, tout ça, ça concourt à une ouverture d'esprit, à accepter l'autre, à échanger avec beaucoup de personnes. Donc pour moi, ça, si tu veux, ça n'a pas de prix, en fait. Voilà.
Ouais, très bien. Est-ce qu'en termes d'évolution de carrière, tu penses que ça t'a bien aidé ou pas spécialement?
Ben, si tu veux, en termes d'évolution de carrière, enfin, au sein de l'administration française, je veux dire, c'est avant tout tes compétences, hein, qui priment. Donc, mais effectivement, l'ouverture vers l'international, ça t'aide parce que ça te permet d'avoir déjà de bonnes capacités de communication, hein, interculturelle. Et quand tu es dans un réseau diplomatique, oui, il faut avoir cette diplomatie et cette capacité de communication. Il faut aussi avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse. Voilà, donc des qualités de leadership. Pouvoir savoir travailler en équipe, et quand je dis travailler en équipe, c'est travailler dans une équipe interculturelle, intergénérationnelle, et puis aussi mes compétences linguistiques, elles m'ont beaucoup aidé, hein. Je parle le 4 langues, et je crois que c'est utile dans le milieu international. Et puis après, dans une agence publique, comme celle de Business France ou dans le réseau diplomatique français, on me dit souvent que je suis quelqu'un de sérieux, et je crois que ça m'a aussi permis de construire, on va dire, un bon capital confiance avec ma hiérarchie. Faut savoir que ma hiérarchie, c'est beaucoup de hauts fonctionnaires, hein, français. Donc ça te permet d'évoluer en confiance, ça te permet de saisir des opportunités et de montrer qu'on est capable d'assurer l'ensemble des fonctions qui nous sont allouées de manière sérieuse et en confiance. Donc voilà, c'est toute une série d'aspects qui ont fait que j'ai pu, pendant ces quelques années, travailler dans le réseau et probablement plus tard y retourner pour d'autres expériences.
Une question de mon auditeur. Est-ce
Ouais.
que Business France met à disposition du grand public leurs analyses de marché par pays?
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc il y a des analyses, des panoramas pays, des panoramas sectoriels qui sont disponibles sur le site de Business France. Alors on a plusieurs catégories de produits et d'offres éditoriales. Certains sont en accès libre, d'autres sont en accès payant, mais vraiment à des coûts qui sont assez attractifs par rapport à ce que pourraient faire des grands cabinets conseils ou d'autres entreprises spécialisées. Pour vous donner un exemple, le guide des affaires, par exemple, guide des affaires aux Émirats arabes unis, guide des affaires en Algérie, guide des affaires en Chine, qui est en fait une vraie ressource utile pour un investisseur ou une entreprise qui souhaite se développer, il est vendu à peu près à 80 €, ce qui est un prix qui est quand même assez abordable pour une entreprise, pour le grand public. Et puis ensuite, il y a des offres régulières, il y a des packages qui sont faits. Il est offert si l'entreprise en question prend des prestations payantes, d'autres prestations payantes de mise en relation, etc., auprès de Business France.
Une autre question, y a-t-il des accompagnements spécifiques pour les PME souhaitant se développer à l'étranger?
Oui, il y en a une multitude, et je vous invite vraiment à visiter le site de Business France. Je vais vous donner notamment en ce moment, parce que si vous voulez, comme vous le savez probablement, il y a un grand plan de relance qui a été adopté par le Parlement français, dont un plan de relance pour l'export. Et donc ce plan de relance prévoit toute une série d'aides pour aider les entreprises exportatrices françaises à regagner certaines parts de marché qu'ils auraient peut-être perdues pendant la crise. On parle du chèque relance export, hein, ce qui est en fait un chèque d'environ 5 000 euros qui permet à une entreprise française de bénéficier de prestations qui sont proposées soit par Business France ou par d'autres partenaires qui sont référencés. Alors une prestation, c'est par exemple la mise en relation par un bureau de Business France à l'étranger avec une dizaine de distributeurs chinois ou des distributeurs australiens, enfin, en fonction de la géographie que vous aurez sélectionnée. Et donc, vous êtes en mesure de pouvoir organiser des B2B pour présenter vos projets de manière virtuelle, notamment, puisque aujourd'hui les déplacements sont assez restreints. Ça, c'est un exemple d'aide dans le cadre du plan de relance export. Mais il y a aussi, et ça a toujours existé, pour les entreprises qui ont déjà un certain niveau d'exportation, qui souhaitent être présents dans des grands pavillons internationaux, dans des grands salons internationaux. Vous pouvez aussi participer au pavillon français, hein, qui est en général géré par Business France, avec des prix assez attractifs du mètre carré, hein, en général. Une subvention publique qui permet de réduire le coût du mètre carré sur ces salons pour des petites entreprises. Et c'est des beaux salons, hein. On parle par exemple du CES de Las Vegas, où on a tous les ans à peu près 300 startups françaises qui sont sous le pavillon français au CES et qui bénéficient d'atouts à la fois pour être visibles. Pour leur branding, mais également des atouts financiers, puisque c'est subventionné par le gouvernement.
Ouais, il me semble que récemment, c'était peut-être l'année dernière ou l'année avant, c'était les plus présents, enfin parmi les plus
Ouais,
présents au CES.
pour les deux depuis les deux dernières années, effectivement. Ouais.
Peux-tu partager un ou plusieurs challenges, un gros challenge dans ta carrière et comment la spiritualité et l'islam t'a accompagné?
Oh, les challenges, j'en ai beaucoup, hein. Mais peut-être te parler d'un challenge récent qui était, on va dire, entre guillemets, ma première expérience de management d'équipe, donc d'une équipe de 7 personnes à New York. J'ai été sélectionné, hein, pour prendre la direction du bureau de New York en 2018. Et j'avais un enjeu, on va dire, et un challenge en matière de management, puisque l'équipe en question, c'était une équipe avec de forts enjeux intergénérationnels. On avait enfin, des profils juniors qui avaient 24, 25 ans, et puis des profils seniors qui avaient 55, 56 ans. Donc, si vous voulez, c'est un vrai enjeu. En matière de management et puis en matière d'interculturel, avec une équipe qui était vraiment riche au niveau culturel, des Français, des Américains, des Sud-Américains, notamment Colombiens, etc. Donc, tout ça dans un contexte de réorganisation, hein. On sait que lorsqu'il y a des réorganisations, c'est toujours en matière de management, il faut être particulièrement attentif. Et donc, c'est un défi que j'ai honoré, qui n'était pas simple. J'ai contribué à la formation d'une nouvelle équipe. J'ai renforcé leurs connaissances et leur savoir-faire, puisque j'ai quand même une expertise dans le domaine de l'attractivité et de l'accompagnement des investisseurs que j'ai pu mettre à leur profit. Établi un plan d'action, suivi sa réalisation. J'ai coaché, j'ai formé l'équipe. Et puis, on a atteint au bout de 2 ans un résultat qui est en hausse de plus de 25% par rapport à l'année précédente. Et tout ça, en fait, ces enjeux, on les relève, et c'est vrai que l'islam, pour nous accompagne au quotidien. Hein. Dans ce cas de figure précis, si tu veux, la religion musulmane, elle propose un système de valeurs éthiques qui s'applique tant aux activités quotidiennes et au monde des affaires. Donc, je pense que la religion m'a aidé, en fait, si tu veux, à être bon, à être juste dans mes choix managériaux vis-à-vis des personnes qui étaient mes collègues. Et c'est vrai que j'ai toujours cet aspect en tête, c'est comment bien faire les choses, comment être juste dans ses choix. Et être bon dans la manière de faire les choses. Et c'est vrai que l'islam, à ce niveau-là, m'enrichit régulièrement.
Parce que c'est facile d'être injuste en entreprise.
Je ne peux pas porter un jugement, mais
Oui.
on peut être amené, lorsqu'on est manager et dans du management, à prendre des décisions qui peuvent paraître injustes pour certaines personnes. Je dis bien paraître injuste pour certaines personnes, et c'est tout le rôle du manager de pouvoir expliquer ses choix, de pouvoir inclure enfin, tous les membres de l'équipe et insuffler une dynamique d'équipe où chacun se sent bien dans son travail. C'est extrêmement important d'être attentif à ça, et je crois que, encore une fois, je crois que notre religion, nous, Alhamdoulillah, elle nous demande d'être bon, d'être attentif aux autres, d'avoir de l'empathie, de savoir comprendre. En fait, enfin, c'est un système de valeurs qui nous permet au quotidien d'être extrêmement attentif sur ces aspects-là.
On arrive bientôt à la fin de l'interview, Salim. Je vais finir par quelques petites questions.
Ouais, je t'en prie.
Comment est-ce que tu progresses?
C'est une très bonne question. À vrai dire, pour moi, si tu veux, et c'est un élément qui est extrêmement important, pour moi, l'amélioration continue, c'est pas un choix, si tu veux, c'est une nécessité. Hein, et depuis que je suis tout jeune, c'est pour moi une source de motivation quotidienne. C'est-à-dire que si je n'ai pas des challenges qui visent à améliorer mon quotidien, mes conditions de travail, mes conditions de vie, etc. Ben, si tu veux, il n'y a pas de sens. Donc, pour moi, c'est une source de motivation quotidienne et c'est une nécessité. Et comme dirait Confucius, celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Donc, c'est extrêmement important. Tout d'abord, en fait, il y a vraiment une notion importante qui est celle de la confiance en soi. Il faut croire en soi pour pouvoir progresser. C'est extrêmement important. Pour ma part, on va dire, je me focalise sur des projets précis et simples. Et j'établis un plan d'action avec des démarches quotidiennes que j'évalue régulièrement pour voir si je m'approche ou pas de mon objectif. Et je ne fais pas ça seul, en fait. Je fais ça, je suis accompagné par toute une série de livres et une littérature. Et lorsque j'étais aux États-Unis, ça a été une explosion à ce niveau-là parce que je lis énormément de livres de développement personnel. Je suis aussi un mordu de développement personnel. Et il y en a plusieurs qui abordent plutôt bien ce sujet de comment savoir se dépasser, comment se développer. Je cite par exemple, bah, c'est un livre qui est vraiment connu, c'est un best-seller, mais pouvoir illimité d'Anthony Robbins, hein, que vous connaissez probablement. C'est
Ouais.
vraiment un livre de référence à ce niveau-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai que ces livres-là, enfin, pour moi, tout le monde devrait le lire, en fait. Ça permet vraiment de débloquer beaucoup de goulots qu'on peut avoir en matière de développement et de progression.
Ouais. Tu as dit que tu avais une sorte de projet à moyen terme et que tu regardais au fur et à mesure si tu les atteignais. Tu fais ça comment? Tu as un carnet, tu notes
Je me fixe
ça.
ouais, je prends un carnet, je me fixe des objectifs. Je me fixe
D'accord.
des objectifs qui sont des objectifs, encore une fois, comme on dit, des objectifs smart, hein, qui sont des objectifs atteignables, qui sont mesurables, hein, qui sont ajustables, hein, parce que on peut toujours avoir de grandes ambitions, mais il faut quand même savoir être réaliste. Et puis je vois au fur et à mesure comment j'évolue. Si j'évolue pas, je change mon orientation, enfin, si je voulais pas dans le sens où je souhaiterais, je change mon orientation, etc. Mais je pense que ça, c'est une étape indispensable, hein, de pouvoir y aller par tâtonnement et petit à petit.
D'accord. Donc ça, c'est chaque année, chaque 6 mois, chaque 2 ans. T'as une période
C'est
précise
pas,
où
c'est
tu sais
pas.
quand comme ça vient?
Non, c'est vraiment en fonction des projets. C'est vraiment en fonction des projets. Je peux avoir 2 à 3 projets en même temps. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, du coup, j'ai pas. C'est vraiment et qui peuvent prendre plus ou moins plus de temps, quoi. Et quelquefois,
Quand tu dis
un peu
projet,
plus de temps.
c'est projet pro, c'est de développement de toi-même, genre de développement d'apprendre des compétences, ça peut être n'importe quoi.
Ouais, c'est des projets pro, c'est des projets perso. Des projets familiaux, voilà, c'est enfin, beaucoup de
Ouais.
projets, voilà.
Je demande ça parce que moi aussi, j'essaye de mettre en place ce genre d'habitude. Et
Ouais.
je trouve que c'est hyper important, en fait, d'avoir une direction, même si ça change au fur et à mesure, on n'est pas devin, enfin, on sait pas vraiment, parfois on n'est pas sûr de vouloir faire d'atteindre nos objectifs, mais au moins d'avoir une direction, de pouvoir évoluer, c'est moi ça m'apporte beaucoup. Là, j'ai commencé récemment et puis depuis un an, je pense, et je vois déjà les résultats de pouvoir monitorer, de pouvoir suivre un peu, avoir des objectifs, comme tu dis, pro, familiaux,
Ouais, je
personnels,
pense que c'est
etc.
important.
C'est
Je pense que c'est important. Ouais. Et en fait, il faut, enfin, tout le monde passe par là, hein, et tout le monde a des projets. Donc, il faut aussi pouvoir tirer profit de l'expérience des uns et des autres. Et encore une fois, en termes de littérature, il y a beaucoup de livres qui reviennent sur cet aspect. Tu vois, par exemple, il y a un livre, bon, alors, qui est un peu particulier, mais qui est aussi un livre de littérature américaine de Napoléon Hill, qui est Réfléchissez et devenez riche. Et ça, en fait, si tu veux, ça pose des principes. Il y a 13 principes qui sont universels et qui sont issus de tout un travail qui a été mené par Napoléon Hill, un travail de recherche qui permet de déterminer certains principes auxquels il faut se tenir lorsqu'on a des projets. En l'occurrence, ce projet-là, c'est pour, entre guillemets, devenir riche, mais c'est pas forcément au niveau financier. Ça peut être, on peut le mettre et l'appliquer à différents niveaux. Voilà. Mais vraiment, les livres de développement personnel, pour moi, c'est vraiment des références qui sont extrêmement utiles et qui nous permettent d'apprendre. D'apprendre. On a aussi d'autres livres. Je donne par exemple un objectif que j'ai toujours eu, c'est de pouvoir améliorer mes relations humaines avec les interlocuteurs qui sont les miens, sachant, si tu veux, que dans mon milieu professionnel, c'est un élément qui est très important, hein. Donc, il y a aussi des livres qui sont issus de la littérature musulmane, hein. Je vais citer un livre que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Istamtir bihayatik, Profite de ta vie, de Mohamed Al-Arifi. Et en fait, c'est vraiment l'apprentissage, l'art des relations humaines selon la biographie du prophète. Et on apprend énormément de la manière de pouvoir valoriser l'autre, de pouvoir comprendre l'autre, de pouvoir ne serait-ce que faire des compliments et des encouragements à l'autre pour pouvoir améliorer son relationnel et avec les personnes. Voilà, et puis il y en a beaucoup d'autres, hein, enfin, il y a beaucoup d'autres livres qui sont intéressants à ce niveau-là.
Super. Bah écoute, je te poserai pas la question de recommandation de minute, t'en as donné pas mal, trois, que je mettrai en description, Inch'Allah. Est-ce que tu as des hobbies, des habitudes?
Parce que je t'ai dit, hein, moi, mon principal hobby, c'est vraiment de voyager. Donc, j'adore le voyage, quoi. Je suis passionné par les voyages. Et dès que j'ai quelques jours de disponibles, j'en profite
Compliqué là.
pour faire une escapade. Effectivement, ces mois-ci sont un petit peu compliqués, mais ce qui ne m'empêche pas non plus de voyager, et notamment en Europe, hein, je l'ai fait et je continue à le faire. Mais voilà, donc pour moi, c'est le contact avec, quand je dis voyage, c'est pour contact avec des cultures, avec la nature. Enfin, je peux rester des heures et des heures face à une montagne, enfin, à la mer. Enfin, contempler la nature, pour moi, c'est un moment fort qui me permet que je sois seul ou accompagné. De réfléchir, de me ressourcer. Voilà, donc vraiment l'un des principaux hobbies, c'est vraiment le voyage.
Ok, excellent. Et dernière question, si les gens souhaitent te suivre, te contacter, ils ont des questions,
Bah,
est-ce que c'est possible?
avec grand plaisir. Donc, moi, je suis plutôt actif, on va dire, sur le réseau LinkedIn, hein, donc, n'hésitez pas à vous connecter. Donc, Salim Seifi, en principe, vous me trouverez sur LinkedIn. Et puis, je serai vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous et partager avec vous.
Ok, écoute Salim, je te remercie énormément pour ton temps.
T'en prie.
C'était hyper intéressant. On a parlé de plein de choses super intéressantes, Business France, travail à l'étranger, etc. J'espère que les auditeurs, ça vous a plu.
Et merci à toi surtout, merci à toi Abdelrahman pour ce que tu fais, pour ton initiative, pour l'ensemble du travail que tu fais, qui est un travail de qualité. Et puis je te souhaite beaucoup de succès dans la suite.
Merci beaucoup, toi aussi. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.
À bientôt, salam alaikum.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.